souvent on met un titre et j'ai
donné un titre au partage de ce matin, puis je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes en visite et que pour ces personnes en visite, ce titre va peu leur paraître quelque peu familier. Mais là, au moins le mérite de que vous compreniez combien on vous accueille dans la simplicité, dans la vérité, comme si vous faisiez vraiment partie de notre rassemblement. Alors ce titre-là est sous forme d'une question. Suis-je bien parfumé? Alors je l'ai mis au féminin, bien sûr, hein, mais je l'ai mis au masculin. Voilà. Hein. Suis-je bien parfumé? Est-ce que vous connaissez, alors on va commencer par mesdames, pour l'année 2013, en France, le parfum, ben on peut dire c'est le meilleur, puisqu'il a été le plus vendu. Quel est le parfum, la marque et le parfum qui a été, mesdames, le plus vendu pour vous? Non. La marque, c'est Dior. Et c'est J'adore, voilà. Alors, désolé pour vous, mesdames, mais la petite robe noire de Guerlain n'est arrivée qu'en troisième. Alors, pour vous, messieurs, quel est le parfum qui a été le plus vendu en France? Le quoi, vous avez dit? Voilà, exactement. Et ensuite, celui qui est arrivé en troisième... Désolé, messieurs, il n'est qu'en troisième, c'est celui de Jean-Paul Gaultier, le mâle. Hein? Voilà. Alors, pour ce moment de partage, je vous propose trois temps. Le parfum quoi? Le parfum comment? Et enfin, le parfum pour qui? Alors, en premier, le parfum quoi? Alors, le parfum est défini comme une odeur agréable. Au sens étymologique du mot, le préfixe « par » évoque l'excellence de la racine qu'il précède, c'est-à-dire « fin ». Et « fin », qui est donc la racine du mot, évoque la fumée qui est produite, que produit la substance qui est placée sur le feu. Donc, « parfum » signifie « fumée excellente. Donc, messieurs, au matin, vous pourrez dire à vos dames, « Oh, chérie, tu sens la fumée excellente. » Je pense que ça leur fera plaisir. Hein. Alors, certaines plantes dégagent une odeur spontanée d'elles-mêmes, mais la plupart nécessitent la chaleur du feu pour qu'elles exhalent, enfin, au mieux le parfum. Les parties odoriférantes d'une plante peuvent varier, ça peut être la fleur, ça peut être la feuille, mais aussi parfois la racine ou l'écorce. Elles peuvent être utilisées dans leur état naturel, mais parfois elles sont mises en suspension, en solution ou en décoction dans l'eau par exemple, c'est le cas du henné. Et également, parfois aussi, en distillation. Parfois aussi, elles sont séchées, broyées, pilées, et se présentent sous forme de poudre plus ou moins fine. Le parfum peut être pur, lorsqu'il provient d'une seule origine, mais il peut être aussi composé, lorsqu'il provient de plusieurs substances. Il est alors... comme on le dit, la composition, l'ouvrage du parfumeur. Alors le parfum est souvent cité dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Alors j'ai retenu une lecture pour nous ce matin, je vais simplement en faire un résumé, vous pourrez la lire, et je vous invite sur le thème du parfum d'aller parcourir un peu dans la parole, c'est très enrichissant. Alors, dans ce texte d'Exode 30 et des versets, à partir du verset 22 jusqu'à la fin 37 à peu près, nous voyons là que l'Éternel donne des directives sur la constitution de parfum et sur la base donc de plantes aromatiques. Il est question donc de la myrrhe, il est question de la casse, il est question du roseau aromatique, de la cinnamone. Et il nous est dit dans ce passage, dans la première partie, que cette constitution était pour constituer l'onction sainte. Cette onction sainte qui devait être revêtue sur, en fait, tous les ustensiles qu'il y avait dans le lieu saint, ainsi que sur les souverains sacrificateurs, en fait, sur tout ce qui était consacré. Alors nous qui sommes chrétiens, ça nous rappelle, bien sûr, un petit peu l'onction du Saint-Esprit qui est répandue sur nous, hein, comme étant consacrée pour le Seigneur. Et en fin de ce passage, il est là plus précisément parlé d'un parfum, notamment avec de l'encens, et que ce parfum-là, il nous est dit qu'il était réservé à l'Éternel, et qu'il était là comme le témoignage devant lui. Et que ce parfum-là, ben, les hommes ne devaient pas l'utiliser pour eux-mêmes, pour en sentir l'odeur. Nous apprenons l'importance que Dieu, au travers de ce passage, attache au parfum, à la manière dont il l'apprécie, ce qu'il représente pour lui, pour Dieu donc, au travers des sacrifices qui préfigurent, bien sûr, notre Seigneur et Sauveur dans ce qu'il vivra, dans ce qu'il fera et dans ce qu'il accomplira plus tard pour nous. Alors, je vous propose de passer en revue rapidement quelques aromates de qui il est question dans ce passage. Le premier, c'est la myrrhe, c'est celui qui est cité en premier, et c'est en fait le parfum que l'on retrouve le plus souvent également dans la parole de Dieu. Hein? Il vient d'un arbre, nous dit-il, dont le tronc est comme blessé et qui laisse perler des perles qui à l'air libre se coagulent. Et d'ailleurs, au chapitre 22 verset 22 du passage, on dit « De sel, l'Éternel dit, de sel qui coule d'elle-même, des larmes qui coulent d'elle-même. » Et ce premier parfum nous parle particulièrement des larmes de notre Sauveur, de ses souffrances, de ses meurtrissures endurées pour nous et qui sont pour nous effectivement la base de notre salut. C'est par le moyen de la voix prophétique dans les psaumes 102 et aussi 42 que notre Seigneur peut dire par avance « J'ai mêlé de pleurs mon breuvage et mes larmes ont été mon pain jour et nuit. » Ainsi, la myrrhe, donc, ces premiers aromates, l'odeur est une odeur agréée par Dieu, celle du don de soi de notre Seigneur. Ensuite, la deuxième plante qui est citée, c'est la cinnamone. En fait, c'est le mot ancien de cannelier. Et là, il s'agit d'un fort bel arbre, originaire de Ceylan et aussi d'Éthiopie, aux feuilles persistantes, donc un arbre qui est normalement toujours vert, et vigoureux, et qui répand de très loin son parfum qui, là, lui vient de l'écorce. C'est un parfum qui est utilisé sous la forme d'huile, obtenue par distillation de l'écorce. Il évoque surtout la beauté du Seigneur. Une beauté et une odeur bonne qui est en fait perçue de loin, comme c'est le cas pour cet arbre. Jésus a été l'homme parfait de tous les desseins de Dieu. Il a répandu la bonne odeur de quoi ? La bonne odeur de ses perfections, la bonne odeur de sa soumission à la volonté de Dieu, et cela durant toute sa vie. Christ est celui dont le nom est un parfum répandu. Il a été d'une part un homme parfait devant Dieu et pour Dieu également. et d'autre part, il a été la manifestation parfaite du Dieu d'amour pour nous. Ensuite, le troisième qui vient, c'est le roseau aromatique. En certains cas, il est aussi appelé le doux roseau. Et il est très largement, celui-ci, répandu au Moyen-Orient. On le trouve notamment sur les rives du Nil et de la mer Rouge. Et il semblerait que c'est dans ces roseaux-là, en fait, que le petit Moïse s'est retrouvé bloqué et en tout cas recueilli. Et de ce roseau, il nous est dit que c'est un végétal qui est fin. On connaît nos roseaux en Europe, hein, souple, mais aussi robuste à la fois. Et là, c'est sa racine. Hein, sa racine qui se distingue donc par une odeur agréable. Et il évoque bien sûr la douceur et l'aspect débonnaire de notre Seigneur Jésus, en même temps que sa fermeté dans la vérité. Et ensuite vient la casse. La casse, c'est là le produit d'un arbre qui est relativement grand, qui peut atteindre une hauteur de 8 mètres pour les plus hauts. Et il a le nom de cassia, ce qui nous fait penser un petit peu à l'une des filles de Job qui s'appelait ainsi, et les filles de Job étaient renommées pour être belles. Cet arbre, on le trouve au Cachemire et au Malabar. Et c'est une essence d'aspect jaunâtre obtenu par la distillation de l'écorce et qui est débité en fines lamelles et ensuite séché et qui dégage donc une odeur suave. Elle évoque donc la beauté et la majesté de Christ, tout dans sa personne adorable et grandeur et beauté. Et enfin, en dernier dans notre texte, j'ai relevé juste l'encens. L'encens pur qui, lui, provient d'un arbre, le boswellia, et que l'on trouve plus particulièrement aux Indes et en Arabie. Il s'agit là d'une résine blanche qui s'écoule naturellement, elle aussi, ou après l'incision de l'écorce. C'est là aussi un encens en larmes. Il s'utilise pilé très fin, et n'exhale son parfum qu'une fois qu'il a été placé au-dessus d'un feu à l'aide d'un récipient. Sa fumée, nous est-il précisé, elle est d'un blanc pur, d'un blanc immaculé, et elle ne fait pas de volutes, elle monte tout droit vers le ciel. Ça peut représenter, bien sûr, une image de l'intercession de notre Seigneur. Psaume 141, que ma prière soit devant ta face, qu'elle monte vers toi comme l'encens. Alors après avoir vu le parfum quoi, je vous propose le parfum comment. Alors d'entrée, on peut se poser donc les uns aux autres cette question. Quel est ton parfum? Ou quel parfum laisses-tu exhaler? Dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 2, je retiendrai pour l'instant le verset 15 qui nous dit, par l'apôtre Paul, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. » Être le parfum de Christ parmi mes frères et sœurs, le parfum de Christ pour Dieu. La vie de notre Seigneur, dans tous ses détails, a été pour Dieu un parfum de bonne odeur. Et pas seulement dans sa divinité, pas seulement dans ce qu'il a montré de sa puissance, pas seulement dans les messages de vérité qu'il a donnés, mais il a été un parfum de bonne odeur dans ce qu'il a montré dans sa relation avec ses contemporains, avec sa famille, ses disciples, avec ses opposants aussi. Mu par la vérité, mu par la compassion et par l'amour. Et dans cette vie pratique, et je dirais dans cette pratique de vie Christ a été pour Dieu un parfum de bonne odeur. Alors, connaissant la différence notoire entre notre pratique de vie et celle du Seigneur, comment Paul peut-il dire « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ » ? C'est l'amour sacrificiel et volontaire de Jésus qui a été pour Dieu un parfum de bonne odeur. Dans Jean 13, au verset 34, nous sommes invités par le Seigneur lui-même à aimer comme lui-même nous aime. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le commandement est indiqué comme nouveau, on le connaissait déjà, hein. Il est indiqué comme nouveau dans le sens où il parle en plus de l'amour du cœur, d'un amour en action. Et Jésus, en plus de préciser que, bien sûr, nous ayons des bons sentiments les uns pour les autres, il nous demande, dans ce verset, de passer à l'action. À l'action d'amour. De manière familière, on dit parfois joindre le geste à la parole. Eh bien, notre Seigneur, qui est notre modèle, a joint la pratique au sentiment, dans sa vie et dans sa mort pour nous. Et c'est bien dans son sacrifice total, et je dirais ultime, que le Seigneur a été un parfum d'une agréable odeur à Dieu le Père. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de plantes qui sont séchées, broyées, pilées, et qui se présentent sous forme de poudre plus ou moins fine. Alors piler signifie, ça veut dire piler à la meule ou au pilon, c'est-à-dire immoler. Et le mot immoler vient du latin immolare, qui signifie enduire de farine sacrée la victime d'un sacrifice. Le mot se décompose donc en im, qui veut dire sur, et puis mola, meule, ou plus exactement, farine passée à la meule. On voit qu'il y a donc un lien direct entre piler à la meule et sacrifice d'immolation. Christ a été immolé. Et ce parfum répandu, broyé de souffrance, est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Parfum apprécié, sacrifice accepté. La bonne odeur que nous pouvons faire remonter vers Dieu est donc un parfum de sacrifice. C'est ce que j'en conclus. C'est-à-dire qui coûte en volonté, en effort, en peine même parfois. Et quand notre Seigneur nous demande d'aimer comme lui, cela signifie que ça va nous coûter, comme un sacrifice, au point de nous sentir peut-être parfois comme pilés, tellement cela peut être difficile. C'est ainsi qu'il nous demande de nous aimer avec effort, sacrifice, afin d'être pour Dieu le parfum de Christ dans nos relations les uns envers les autres. Alors ça, c'est tout simplement un défi impossible à réaliser, un objectif qui nous est impossible d'atteindre, que d'aimer comme Jésus aime et de témoigner de lui fidèlement. Dans ce même chapitre de 2 Corinthiens, et là au verset 16, Paul dit, qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour ces choses? Mais si on va un peu plus loin, au chapitre 3, les versets 5 à 6, il dit, ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables, dit-il. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Mais, pour ne parler que de moi, je n'ai pas besoin d'aide extérieure pour être quelque part désagréable en quelques occasions auprès de ceux que je côtoie. Je n'ai pas besoin que l'on m'aide. Je suis tout suffisant pour être un parfum non agréable. C'est mon épouse qui me disait il y a quelques années, me faisait la réflexion, elle me disait, tu sais François, aux enfants, on n'a pas besoin de leur apprendre à mentir, à être désagréable ou à faire des bêtises. On doit leur apprendre ce qui est bien. Je crois que c'est à tout âge. Hein. Mais pour être le parfum de Dieu, pour Dieu, pour être pour Dieu comme le parfum de Christ, là, ma suffisance trouve ses limites. J'ai besoin d'aide. Qui est suffisant pour ces choses? Qui est à la hauteur? Je vois que personne ne lève la main. Alors bien sûr, quand on lit ces textes, il n'est pas étonnant que le découragement nous guette. Tant le décalage est grand entre notre vocation en tant que chrétien authentique et notre vécu en tant qu'homme et femme. Mais en lisant ce verset 16, toujours dans 2 Corinthiens 2, on doit le lire en n'oubliant pas ce que Paul nous dit deux versets plus tôt. Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Il a même ajouté « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ». Ce qui, du coup, nous laisse un vif encouragement au cœur de notre découragement et de notre faiblesse. Dans cet « Aimez-vous comme je vous aime », Jésus ne nous demande pas de faire de notre mieux, mais d'aller au-delà de nos possibilités. Et pas en faisant des efforts surhumains, totalement inefficaces, mais en apprenant de lui, en nous reposant sur lui, en lui faisant confiance, en faisant appel à lui, et ça c'est pratique, en faisant appel à lui. C'est dans 2 Rois 2:9, c'est Élisée qui, répondant à la proposition qui lui est faite de demander ce qu'il voulait, dit à Élie, « Qu'il y ait, je te prie, une double mesure de ton esprit sur moi. Est-ce que je désire une portion d'esprit de Dieu supplémentaire? Ou si vous aimez mieux, plus grande? Ou si vous voulez encore mieux, plus agissante ?» afin d'être mieux imprégné de l'odeur de Christ. Alors les odeurs, elles ont cette propriété qu'elles peuvent passer de l'un à l'autre sans même qu'on les souhaite. Hein. Si vous tenez à proximité d'un fumeur ou d'une personne qui fume, ou bien tout simplement d'un feu, ben vous allez être imprégné rapidement de cette odeur qui n'est pas vraiment agréable là, pour le coup. Alors il y a odeur plus agréable, il y a un proverbe qui dit « Quand on vit au milieu des roses, on en prend malgré soi le parfum. » Et cette évidence pratique de vie est aussi vraie spirituellement, puisque c'est en passant du temps, en présence de Jésus, que son parfum nous est transmis. Alors, après avoir vu le parfum quoi et le parfum comment, pour terminer, je vous propose de passer rapidement sur le parfum pour qui. Alors nous avons lu dans Exode 30 concernant le parfum, plus exactement vers la fin du texte que nous avons parcouru. Il nous est dit que c'était un parfum réservé pour Dieu. Réservé pour l'Éternel et que personne n'avait le droit d'en composer un pareil, un identique, pour son usage personnel. Ils n'avaient même pas l'autorisation d'en humer l'odeur pour eux-mêmes. Alors dites-moi, pour qui mettez-vous votre parfum ? Sans doute, me semble-t-il, en premier pour vous. Est-ce que vous mettriez un parfum qui plairait à votre entourage et qui vous déplairait à vous ? Je ne le pense pas. Mais le parfum dont il est question dans nos textes, à la fois d'Exode 30, verset 37 et de 2 Corinthiens, le parfum qui doit émaner de nous, il est question d'un parfum pour Dieu. Ce n'est pas un parfum qui doit m'être personnellement agréable, mais un parfum qui doit être agréable à Dieu. Ce que je fais, je dois le faire pour Dieu. Non pas pour moi, ou parce que ça me plaît, ou parce que cela me correspond. En tant qu'enfant de Dieu, c'est à Dieu qu'appartiennent nos vies. On n'a pas le droit d'en disposer comme bon nous semble, ou à nous complaire en nous-mêmes, en voulant sentir l'odeur de nos œuvres. Romains 15 dit, nous ne devons pas chercher à nous plaire. Alors j'en arrive à la conclusion, et pour cela j'ai relevé ce que déterminent les professionnels du parfum. Concernant les parfums, les professionnels déterminent trois caractéristiques particulières du parfum. Premièrement, ils déterminent comme caractéristique ce qu'ils appellent la note de tête. Et c'est celle qui domine lorsqu'on on applique directement ou tout de suite le parfum sur la peau. Et cette note-là, elle est définie par des molécules qui sont très fugitives. Et en fait, elles disparaissent très rapidement parce qu'elles sont composées de molécules très volatiles. La deuxième caractéristique que ces professionnels donnent au parfum, c'est la note, disent-ils, de cœur. Et elle se développe après la note de tête. C'est elle, disent-ils, qui détermine le thème du parfum. Et sa durée est de quelques heures seulement. Et enfin, ils ont déterminé une troisième caractéristique, pour eux, ils disent, c'est la note de fond. Elle représente la phase finale du parfum, qui persiste après l'évaporation des deux premières. Et ils disent que dans cette phase-là, ces matières sont lourdes et tenaces. Alors il y a un parfum dont je ne vous ai pas parlé encore, puisqu'il n'apparaît pas dans le texte que nous avons lu, mais qui apparaît plutôt dans le Cantique des Cantiques, dans le Nouveau Testament, dans Marc et dans Jean. Il s'agit du nard, le nard. Et il est issu d'une petite plante, qui est proche du romarin et de la lavande. Alors du coup, c'est méridional ça, hein. Mais non, a priori non, c'est une plante qui pousse sur les contreforts de l'Himalaya, hein, ou du Népal, entre 3002 et 5000 mètres d'altitude. Ils ne doivent pas être nombreux, ceux qui doivent passer au travers. Peut-être Nasser, je ne le vois pas, Nasser, là. mais il est allé marcher, faire des treks par là-bas. Et il nous a dit que c'est une huile aromatique qui est fabriquée à partir de la feuille et des épis de la plante. Et elle était considérée, et est considérée par les anciens, comme le parfum le plus fin, le plus précieux et le plus onéreux. Alors, bien sûr, sa provenance lointaine et son accès difficile en met déjà le prix, hein. Et il nous a dit que c'est un parfum très pénétrant et qui a un pouvoir de diffusion important. Par ces deux caractères de parfum pénétrant et de grand prix, il évoque l'adoration qui remplit la maison et qui monte vers Dieu. Quelle odeur avons-nous pour Dieu? Quel parfum respire-t-il de nos œuvres? Quel parfum respire-t-il de nos vies en général au quotidien? Quel parfum respire-t-il de nos relations? Alors que je puisse laisser monter un parfum de bonne odeur auprès de Dieu et de mes frères et sœurs, le parfum de Christ dans ma vie, le parfum de Christ dans mes actes, comme cette note de fond, en quelque sorte, un parfum tenace, durable, un art de grand prix aux yeux de l'Éternel, un parfum pénétrant, répandu entre nous et agréé de Dieu. Amen.